Radio Grand Ciel présente Be Jazz, Soyez Jazz, une émission réalisée par Patrick Durand et Gilles Secaz, avec à la technique Claude Casal et au micro Christiane Blain. Vous connaissez Patrick Durand, un médecin qui explique le cheminement de compréhension du jazz par la neurobiologie. Patrick Durand, bonjour.
Christiane Blain, bonjour.
Notre co-réalisateur, Gilles Secaz, un journaliste qui pratique la guitare dans des formations de jazz. Bonjour Gilles Secaz.
Bonjour Christiane Blain.
Et pour cette émission, nous vous proposons À bout de souffle, un film avec une musique particulièrement originale, et je dirais que le film lui-même est aussi très original, surtout pour cette époque. Il s'agit dans ce film du premier long métrage de Jean-Luc Godard, un jeune cinéaste de 28 ans, et de sa bande sonore composée par le pianiste de jazz Martial Solal.
Alors, c'est son ami François Truffaut. L'ami
de Jean-Luc Godard.
L'ami de Jean-Luc Godard, pas de Solal. Quoique.
Je crois qu'il s'était inspiré d'un fait divers.
Voilà, il s'inspire d'un fait divers. Et il fait. C'est un film. Bon, Godard est déjà peut-être un petit peu connu, mais je ne sais pas trop s'il est connu par les petits métrages qu'il a fait auparavant. Il était assistant assez longtemps.
Oui, il n'est pas vraiment connu, voilà. Et puis il n'a que 28 ans.
Il a que 28 ans, mais dans ce métier-là, on commence quand même.
C'est vrai.
On commence quand même assez tôt à être sous-assistant, puis assistant. Et bien sûr, il a déjà des idées un petit peu hors normes. Et je crois que, Gilles, tu nous parlais déjà de l'illustration par le générique de départ. Dis-nous deux mots de ce générique.
Oui, c'est très intéressant. C'est très intéressant.
Oui.
Je vais parler du générique dans un instant. Je rejoins ce que disait Patrick à l'instant sur l'originalité de ces jeunes cinéastes. François Truffaut lui-même a commencé son premier film sur un pari, c'est-à-dire le pari de faire ce qui pouvait se faire de mieux à l'époque. Et Godard, lui, voulait absolument faire ce qu'on pouvait faire de mieux à l'époque, de plus original. Donc il a créé ce film sur cette idée que lui avait passée François Truffaut. Et il commence, d'ailleurs tout le film est construit de la même façon, c'est-à-dire des scènes coup de poing, des séquences coup de poing, et le générique lui-même est un générique coup de poing, puisque il n'est constitué que par un seul panneau, c'est-à-dire le titre du film, À bout de souffle, le visa de contrôle interdit au moins 18 ans, et puis un hommage à la Motion Pictures, qui est le studio américain des films noirs de l'époque, de la fin des années 40, début des années 50.
Bon. On va dire que Godard, quand même, simplifie les choses. Et si je me souviens bien, il y a quand même un grand degré de liberté à la façon de filmer avec une caméra qui est sur l'épaule, si je me souviens bien, oui. Alors qu'on faisait beaucoup de traveling, caméra statique ou bien sur des rails. On en parlera un petit peu plus tard.
Oui.
Il faut dire, pour résumer ce film, qu'il tient en 10 lignes. C'est un scénario qui est très simple. Et donc Godard veut filmer les rues de la capitale, il veut filmer les routes de province comme on ne les a jamais vues, en tout cas jamais filmées.
Oui, c'est tout à fait exact. C'est un petit côté potache dans sa façon de filmer et même jusque dans les dialogues. On retiendra des dialogues de ce film, des paroles très fortes prononcées notamment par Jean-Paul Belmondo. Mais nous allons en reparler.
Alors, résumons le script. Michel Poicard, donc Jean-Paul Belmondo, se rend à Paris dans une voiture qu'il vient de voler à Marseille. Il doit toucher de l'argent pour un travail qu'il a fait, mais en fait, on ne sait pas grand-chose sur ce travail. Pris en chasse par des motards, parce qu'il a doublé une voiture en franchissant la ligne continue, il tire sur le policier avec le revolver qu'il a trouvé dans la boîte à gants de la voiture volée. C'est assez résumé, finalement.
C'est assez résumé, tout à fait. C'est là qu'on a une, une phrase culte qui sera répétée à l'envi, et notamment en mai 1968, Belmondo, qui dit « Si vous n'aimez pas la ville, si vous n'aimez pas la campagne, allez vous faire foutre ». C'est un dialogue, il vaut ce qu'il vaut, et il a été retenu comme un dialogue culte par les potages de mai 68.
Écoutons la première illustration, la mort. Voilà, donc pour illustrer ce film, on a fait appel à Martial Solal, qui est...
Nous allons en reparler, Patrick.
Nous allons en reparler. Donc Martial Solal est au piano, donc il est entouré simplement, on en reparlera, mais il est entouré de bons musiciens de jazz français, reconnus à l'époque, Paul Rovert, contrebasse, Daniel Humer à la batterie, Pierre Gossez au saxophone et Roger Guérin à la trompette.
Sans oublier Michel Auxerre,
voilà,
au vibraphone.
Et un vibraphone qui n'est pas toujours bien utilisé en jazz, à part les grands maîtres que l'on connaît.
Qu'est-ce à dire pour ce film, alors ?
Martial Solal est un original, donc je comprends qu'il ait voulu donner des sonorités un petit peu diverses, et le vibraphone est une sonorité qui est assez peu exploité, on dira. Revenons au script, Christiane.
Oui. Alors, parvenu dans la capitale, Michel commence à dérober un peu d'argent à une amie, puis retrouve Patricia Franchini, qui était la belle Ginsberg, une jeune américaine qui rêve de devenir journaliste et qui vend le New York Herald Tribune sur les Champs-Élysées. Ça, je crois que tout le monde se souvient de cette image.
Écoutons à nouveau Martial Solal.
Dans cette scène, au cours de laquelle on voit Gene Seberg vendre le New York Herald Tribune sur les Champs-Élysées, Martial Solal, qui souhaitant rompre avec le concept du film noir, utilise pour cette romance un orchestre à cordes et disait « Il n'est plus tellement question de jazz, mais mon inspiration provenait toujours à l'origine de cette musique. Nous allons en reparler. »
Alors, je continue avec le script. Michel, donc, passe dans une agence de voyage et là, il doit récupérer un chèque auprès d'un contact. La police est déjà sur ses traces et finalement, le manque de peu. Une poursuite s'engage alors dans le métro, mais Michel s'en sort tranquillement.
Donc, il va y avoir une poursuite et... À nouveau, Martial Solal va s'exprimer Donc, petit passage illustrant la poursuite. Voilà une illustration bien classique d'une poursuite avec un tempo qui est très échevelé. Comme Gilles me faisait remarquer hors antenne, il y a une utilisation des bongos, de tous ces instruments africains qui donne un caractère de un petit peu particulier à la fois irréel, mais à la fois le sentiment que des chaussures heurtent les marches, heurtent les escaliers du métro, heurtent ensuite la chaussée où notre Belmondo est en train de s'échapper.
Nous sommes dans la jungle de Paris.
Alors quand Patricia rentre chez elle, elle y trouve Michel d'humeur très ludique. Il feint de l'étrangler si elle ne lui sourit pas. Patricia avoue à Michel qu'elle croit être enceinte. Et après une longue conversation et un moment de profonde affection, Michel cherche à joindre au téléphone un certain Antonio. Le couple se rend ensuite dans un parking où Michel vole une nouvelle voiture et conduit Patricia à Orly, où elle doit assister à une conférence de presse du romancier, par Vulesco.
Petite illustration musicale.
Michel dépose la Ford volée chez un revendeur marron, mais la transaction se passe mal et les deux hommes en viennent aux mains. Patricia identifie Michel sur une photo, mais ne le dénonce pas, par amour pour lui. Elle le prévient et les deux amants, qui projettent de se rendre à Rome, Belmondo, Michel, rêvent dès le début du film de se rendre à Rome, passent la nuit dans un appartement d'emprunt. Et le lendemain matin, le portrait et le crime de Michel, qualifié de meurtrier de la route nationale 7, font la une de la presse. Et alors qu'il est désormais en cavale, on le reconnaît. D'ailleurs, c'est amusant parce que Jean-Luc Godard lui-même fait une petite apparition, une très courte apparition, un caméo, comme on dit dans le cinéma américain, où on le voit très rapidement jouer les délateurs alors qu'il vient de reconnaître Michel. Et la police retrouve sa trace. Patricia est bouleversée et elle téléphone à la police et révèle la cachette de Michel. Elle retourne à l'appartement et l'incite à fuir.
Musique.
Il emprunte de l'argent à un ami dans la rue, mais en retournant à l'appartement, il est abattu dans la rue par les policiers. Patricia arrive juste à temps pour entendre ces mots.
C'est vraiment dégueulasse, qu'elle ne comprend pas et qu'un policier malveillant lui traduit par...
Vous êtes vraiment dégueulasse.
Une dégueulasse.
Oui.
Qu'est-ce que c'est dégueulasse ? Demande-t-elle enfin, prenant soudain conscience de sa trahison, en fixant son regard directement en direction de la caméra, c'est-à-dire vers le public, et en reprenant un geste de Michel, c'est-à-dire le pouce caressant la lèvre supérieure, signe de doute, que le jeune voyou se réservait quand il croisait son image dans un miroir.
C'est un petit signe d'ailleurs que Belmondo va garder pendant des années, cette façon de passer le doigt sur sa lèvre supérieure qu'il a un petit peu épaisse.
Ah oui, c'est de là que ça vient.
Non, ça vient pas de là. C'est-à-dire qu'il va effectivement, Patrick a raison, garder cette espèce de tic. Mais en fait, Belmondo utilise ce tic, pour Godard en tout cas, en hommage à Humphrey Bogart, qui lui-même avait ce genre de geste dans un certain nombre de ses films, notamment dans Passage to Marseille.
Ah oui, on apprend beaucoup de choses.
Musique.
À bout de souffle a été présenté au public en mars 1960 et comme je le disais, le visa d'exploitation indique dès le générique qu'il était interdit au moins de 18 ans. On peut se poser des questions aujourd'hui, ça fait un petit peu sourire, mais bon, c'était comme ça à l'époque. Jean-Luc Godard, n'ayant pas l'idée précise pour la musique du film, avait demandé conseil à Jean-Pierre Melville, qu'on voit d'ailleurs dans le film et qui tient le rôle du romancier par Vulesco. Il est assez horrible d'ailleurs, Jean-Pierre Melville, dans ce rôle, très hautain et sûr de lui. Et c'est Jean-Pierre Melville qui proposa à Godard de travailler avec Martial Solal.
Alors Martial Solal donc, est très demandé depuis le début des années 50. Et il raconte que quand il a vu Godard, quand il a eu une rencontre avec Godard, ça s'est fait autour de la table de montage. Alors il dit « J'attendais qu'il me donne des ordres. Mais en fait, les ordres se limitaient à « je voudrais bien un instrument, un banjo ». Son goût, c'était le banjo. Moi, une fois la musique écrite, je suis arrivé avec 40 musiciens. Bon, on ne peut pas dire que j'ai observé ses souhaits.
À cette époque, le jazz n'était pas très souvent utilisé au cinéma, et en revanche, souvent associé au film noir. On se rappelle Ascenseur pour l'échafaud, alors qu'il a un panorama de possibilités très large. Martial Solal raconte, À bout de souffle n'est pas un film blanc, c'est un film un peu noir, aussi dans son genre. Et par ailleurs, si je pouvais être considéré comme un musicien de jazz, la musique n'est pas entièrement du jazz. Elle est toujours connotée par le jazz, inspirée par le jazz, mais il y a des séquences qui n'en sont pas du tout. Et je pense qu'il fallait avoir une vision un peu plus large des circonstances de ce film, des situations et des sentiments. Il est évident que le thème principal d'À bout de souffle, c'est celui du film de Belmondo, un film noir et donc un thème purement jazz et un peu inquiétant.
Alors, je reviens sur ces propos de Martial Solal, qui veut toujours ne pas être totalement jazz. Et Martial Solal a fréquenté beaucoup les musiciens classiques, et il a fréquenté aussi la musique expérimentale, et c'est vrai qu'aussitôt qu'il joue un thème de jazz, s'il peut s'en échapper, soit par le tempo, soit par les harmonies, il le fait. Donc là, on a des propos qui illustrent bien la carrière successive, la carrière suivante de Martial Solal.
Oui, il faut dire qu'à cette époque, Patrick... Jusqu'à la fin des années 50, Martial Solal, en tant que musicien de jazz, fait les beaux jours du Club Saint-Germain.
Oui, voilà.
Et que les grands musiciens de jazz américains défilent auprès de lui dans ce fameux club.
Nous écoutons un autre passage musical de ce film.
C'est vrai qu'au cours d'une interview, Martial Solal raconte « Eh bien, j'ai regardé ce film deux ou trois fois en salle de montage et en projection privée, et ensuite encore en salle de montage, et j'ai longuement cherché, pendant vraiment plusieurs jours, un thème qui correspondrait à cette intrigue, cette inquiétude, à ce personnage central. Et finalement, je suis tombé un peu par chance sur un petit groupe de cinq notes, dont l'intérêt était la sensation que l'on pouvait considérer ces cinq notes comme faisant partie du mode majeur musical ou du mode mineur. » Pour moi, la musique la plus excitante, c'est celle qui n'est pas entièrement mineure, comme la musique folklorique, ou majeure, comme une symphonie de Haydn, mais qu'il fait intervenir les deux modes. Et le frottement entre ces deux modes donne une sensation beaucoup plus riche.
Je prends la suite de ce que disait Solal, qui, on le voit déjà, s'échappe un petit peu des normes classiques de la composition musicale, surtout en jazz. Donc il disait... Pour me résumer, j'ai inventé ces cinq notes et par chance, l'autre thème principal, on peut dire, a été aussi composé de cinq notes. Mais au lieu que ce soit dans le sens du bas vers le haut, c'est-à-dire du grave vers l'aigu, c'est la même chose de l'aigu vers le grave. C'est-à-dire, à bout de souffle, le thème numéro 1, c'est tot, dou, tot, 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 et le thème secondaire, c'est tu, ta, 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 ta. Ce rapprochement des deux modes majeur et mineur crée des ambiances différentes. Et curieusement, j'ajoute que l'un est angoissant et par contre l'autre est tout à fait détendant. Martial Solal a écrit près de 40 musiques de films, mais une seule a suffi pour lui assurer la gloire et la fortune, c'est celle de À bout de souffle. Écoutons.
On est en mode mineur. L'angoisse de la mort. Chanteur à la mode à cette époque, toujours à la mode d'ailleurs, Claude Nougaro a souhaité rendre hommage à ce film qui est devenu un film culte, qui est À bout de souffle, et il a créé sur la musique de Dave Brubeck, le Blue Rondo à la turque, cette chanson que nous allons écouter pour nous permettre de nous quitter en très bonne compagnie.
Quand j'ai rouvert les yeux, tout était sombre dans la chambre. J'entendais quelque part comme une sonnerie. J'ai voulu bouger, aïe la douleur dans l'épaule droite. Tout à coup me coupa le souffle. Une peur affreuse m'envahit et mon corps se couvrit de sueur. Toute ma mémoire me revint, le hold-up, la fuite, les copains qui se font descendre. Je suis blessé mais je fonce et j'ai le fric. Je glissais la main sous l'oreiller, la mallette pleine de billets était là bien sage. 200 briques, somme toute ça pouvait aller. Mon esprit se mit à cavaler sur et ma planque chez Suzy. Et bientôt à nous de la belle vie. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie, une radio s'est mise à déverser, un air de piano à tout casser. Je connaissais ce truc, c'était le Blue Rondo à la turque, vous pouvez jouer comme un fou.
Vous pourrez réécouter cette émission, chers auditeurs, sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Et surtout, n'oubliez pas de revenir vers nous pour écouter notre 7e émission, Les Liaisons Dangereuses. Thelonious Monk a composé la musique en juillet 1959 et ce sera toute une émission très intéressante que surtout vous ne devez manquer à aucun prix. À bientôt donc pour Les Liaisons Dangereuses. Au revoir Patrick Durand.
Au revoir Christiane Blain.
À bientôt Jessica.
À bientôt Christiane Blain.
Sur les étoiles et me revoilà faisant la malle parmi les antennes de télé. Ce pognon je ne l'aurais pas volé 30 mètres plus bas dans la rue du Colisée. C'était la cohue. J'en peux plus, j'en peux plus. J'ai couru comme dans un rêve le long des cheminées. Haletant la mallette à la main, je vacillais. Sur un toit s'amorçait un escalier d'incendie. D'une cour, je descendis jusqu'en bas et me voici à trois pas d'une sortie sur la rue. Quelle rue, je ne le savais plus, mais tant pis, je suis sorti et tout de suite je les ai vus. Quatre flics au bout de la rue, pas de panique, j'ai reconnu le parc du living, j'y suis entré. La boîte était pleine comme un œuf, deux ou trois jazzmen faisaient le bœuf. Je brûlais de fièvre, je voyais les murs, les bouteilles qui tournaient. Puis quelqu'un m'a saisi par le bras, je me retournais, Suzy était là toute pâle, elle me souriait de nouveau, le soleil a brillé. Dans un souffle, elle m'a dit, viens, j'ai la voiture tout près d'ici, nous sommes sortis, mais devant moi, un poulet a crié, ne bouge pas, avec la mallette, je l'ai frappé, alors le coup de feu a claqué, me clouant sur place. Oh Suzy, t'en fais pas. Je te suis, on y va. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie, toute la vie.